Bonsoir. Je suis en présence, je suis avec Nicolas Lecochin, qui est le directeur de l'IREF,
Institut de recherche économique et fiscale.
Voilà. Et alors, Nicolas, vous avez publié un livre il y a une vingtaine d'années, Cet État qui tue la France. Alors, je rappelle l'analyse. Dans votre livre, vous dites que la cause de l'effondrement du déclin français, ce n'est ni la mondialisation, ni l'Europe, ni le plombier polonais, comme vous dites, c'est l'État. Ce sont les lobbies des technocrates, les administrations pléthoriques. Et vous dites qu'il y a plus de 600 organismes ou observatoires publics qui sont là pour conseiller, entre guillemets, le Premier ministre. Alors, on pourrait dire que le mal français, pour reprendre l'expression de Alain Perfitte, a encore augmenté depuis que vous avez écrit ce livre, puisque Emmanuel Macron avait promis de réduire fortement le nombre des fonctionnaires grâce au départ en retraite. Et non seulement il ne l'a pas fait, enfin il l'a fait très peu au début de son premier quinquennat, mais par la suite, ce nombre non seulement n'a pas baissé, mais a encore augmenté. Et ça, ça fait partie des nombreuses promesses que le chef de l'État n'a pas tenues. Et cela est, je crois, symptomatique de ce mal français qui persiste. Et trop d'États, trop d'administrations, trop de normes, trop de réglementations qui empêchent les gens d'agir et d'entreprendre. On en a eu un exemple flagrant avec l'histoire de Notre-Dame, où là, par miracle, on a abandonné les normes contraignantes et comme par hasard, ça a marché puisqu'on est arrivé un résultat rapide en quelques années. C'est ça, le mal français. Je crois qu'un ambassadeur chinois lors d'un sommet sur la mondialisation avait dit, alors c'est un chinois, bon, mais enfin, ce qu'il avait dit est assez amusant. Quand on est malade, ce n'est pas une bonne idée de demander aux autres de se soigner, aux bien portants de se soigner. Bon, évidemment, il faisait allusion à tous ces pays suradministrés. Alors, je ne pense pas que la Chine soit un bon exemple. Non, ça, loin de là. Alors, revenons à votre livre, Nicolas Lecochin. Et est-ce que vous pourriez le résumer un peu aux auditeurs ce que vous avez voulu démontrer?
Alors, d'abord, merci pour l'invitation.
Mais c'est un plaisir.
Patrick. C'est mon premier livre, donc que j'ai plus. Depuis, j'en ai publié plusieurs.
Toujours chez Plon ou chez d'autres éditeurs?
Chez Plon aussi, oui. Et chez d'autres éditeurs aussi.
Ah, oui.
Et en fait, je me rends compte que lorsque vous m'avez gentiment invité à cette émission, vous m'avez dit bon, c'est un livre encore d'actualité. Mais je dirais même plus que ça, j'aurais pu sortir un tome tous les ans.
Oui, depuis c'est 20 vrai, ans. C'est vrai.
Donc, malheureusement. Alors, j'ai publié ce livre il y a 20 ans en partant d'un constat du fait que la France va mal. C'est encore le cas aujourd'hui.
Oui, malheureusement. Elle va encore plus mal.
Encore plus mal. À cause des dépenses publiques excessives, inflation de fonctionnaires, et surtout le fait que on propose les mêmes remèdes, c'est-à-dire c'est l'État qui s'en occupe, qui doit s'en occuper.
C'est ça.
Et j'énumère dans mon livre tous ceux qui appartiennent à cet État qui tue la France. Des hauts fonctionnaires à Bercy, tous ces narcs bien sûr, oui. Jusqu aux
syndicalistes,
oui, voilà, oui. Et même aux petits fonctionnaires qui ne fait pas son travail et qui profite des et privilèges du système français. Alors, ce n'est pas de sa faute, mais c'est un, c'est un,
enfin,
c'est
quand même, c'est parfois de sa faute parce que l'absentéisme est important dans les administrations publiques.
Hein. Mais exactement. Mais s'il y avait une un retour de bâton, si je peux dire ainsi, il serait pas absent.
Exactement, exactement. Mais il n'y a jamais de retour de bâton.
Exactement. Donc voilà, j'ai énuméré tous ces mots de la France à l'époque qui sont toujours d'actualité.
Oui. Alors justement, pour illustrer un peu, je prends la page 117 de votre livre qui parle des privilèges des syndicats de EDF-GDF. Alors je ne résiste pas au plaisir de lire aux auditeurs cette liste. Voilà par exemple les primes spéciales à caractère familial allouées par l'entreprise aux syndicats d'EDF, mariage de l'agent, 2 mois de salaire en plus, remariage de l'agent, 1 mois de salaire en plus, naissance du premier enfant, 1 mois de salaire, deuxième enfant, 1 mois et demi de salaire, troisième enfant, 1 mois et demi de salaire, 4 enfants et plus, 2 mois de salaire, décès, 2 mois de salaire, enfin, je m'arrête là, et votre liste est beaucoup plus longue, hein. Et puis vous avez dans les primes et indemnités, vous citez primes de service continu, on ne voit pas très bien ce que c'est, ça fait penser aux primes SNCF pour le charbon. Charbon qui n'existe plus, indemnité de jours fériés, alors on donne des indemnités parce qu'ils ne travaillent pas, rémunération de l'astreinte, indemnité de pont, indemnité horaire décalée, prime de travail à 2 équipes successives, prime et indemnité déterminée par référence à un nombre de mois. Là non plus, on ne sait pas trop ce que c'est, et c'est quand même assez croustillant de lire ça. Et vous avez aussi, vous dites aussi, une retraite confortable après 15 ans de travail qui coûtera 50 à 70 milliards d'euros aux contribuables. Bon, ça serait trop long, évidemment, de lire tout ça, mais ce qu'on voit, si vous voulez, c'est que, vous donnez cet exemple, mais vous en donnez plein d'autres dans le livre, que tous ces gens vivent, hein, c'est la fameuse phrase de Frédéric Bastiat, l'État, cette fiction par laquelle tout le monde croit vivre aux dépens des autres.
Des autres, oui, tout à fait.
Et c'est quand même assez triste de voir ça.
Alors, je donnais ces chiffres à l'époque, et je me souviens qu'on me disait « Non, c'est pas vrai, 50, 70 milliards. » Mais aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que tout le monde est d'accord que c'est vrai. Donc,
c'est vrai, oui.
Et depuis, il y a eu plusieurs rapports de la Cour des comptes qui ont confirmé tout cela, qu'il s'agisse de EDF, du comité d'entreprise, de la SNCF, de la RATP. Donc, tout cela a été confirmé et les chiffres ont cessé d'augmenter malheureusement sur le dos des contribuables.
Oui.
Alors un autre point que j'aimerais souligner concernant le livre, c'est que j'ai eu la chance de travailler, enfin d'avoir des informateurs, comme on dit, au sein d'EDF, Bercy, la RATP aussi.
Et alors ils vous informaient avec enthousiasme, ils n'étaient pas...
Oui, il y en a qui m'ont...
Parce qu'ils trouvent que c'est vraiment abusif.
Ce que vous venez de lire, c'est eux qui m'ont... C'est une personne d'EDF qui m'a donné ça.
Ah, c'est fabuleux ça.
Et je parle aussi des primes à Bercy. D'ailleurs, j'ai été le premier à les sortir. Vous savez qu'il y a une liste de primes sur la fiche de paye des fonctionnaires à Bercy.
Ah oui.
Rappelez-vous, un ancien ministre des Finances avait dit qu'il ne connaissait pas les salaires de ses collaborateurs.
Oui, exact. Oui.
Et il avait dit ça dans les médias.
Oui.
Et ce fonctionnaire à Bercy m'a fourni ses fiches de paye. Que j'ai pris bien soin, bien sûr, de cacher son nom. Et j'ai sorti les primes, des dizaines de primes qui sont accordées aux fonctionnaires de Bercy. Pas de bol, Bercy l'a trouvé. Et donc, ils ont un système, probablement. Il a été muté, mais il n'y a pas eu de punition trop, trop grave. Mais j'ai quand même sorti ce que même le ministre ne connaissait pas. La manière dont sont rémunérés ces fonctionnaires. Donc, il y a dans une opacité totale.
Ah oui.
Et le fait que les inspecteurs des impôts ont des primes pour des redressements. Donc, maintenant, on le sait.
Des primes pour des redressements effectués au détriment de certains contribuables.
Au détriment des contribuables, même s'ils ont tort. Même si vous savez qu'en France, vous êtes d'abord obligé de payer
c'est ça,
le redressement, et ensuite, vous pouvez essayer de vous faire justice, même si vous avez parfaitement raison, mais vous êtes d'abord obligé de payer. Donc les contrôleurs disent, voilà, j'ai redressé un tel de 20 000 euros, de 5 000 euros, et ça rentre dans ses primes, c'est-à-dire qu'il est payé au pourcentage des redressements.
Exactement, alors que ça a toujours été nié.
Bien sûr que ça a toujours été nié, et même si le redressement était injustifié, la prime reste.
Oui, c'est ça. Oui, ça c'est un très bon exemple. Alors vous donnez un autre exemple dans un chapitre que vous avez intitulé « Le facteur ne sonne jamais ».
Oui, pareil.
Donc vous étiez... Alors, pouvez rappeler ça.
C'est parti d'une histoire très intéressante qui a fait l'une des médias, parce que je me rappelle très bien, j'allais d'un plateau à l'autre parce que j'avais trouvé, toujours grâce à quelqu'un à la poste, que les facteurs n'ont pas l'obligation de monter un étage pour
distribuer
une lettre recommandée. Donc, pour des personnes âgées, coincées, enfin, c'était la moindre des choses.
Ben les gens qui sont handicapés, c'est toujours un problème.
D'abord, les syndicats à la poste ont nié. Après, ils ont été obligés de reconnaître. De toute façon, j'étais sur beaucoup de postes radio. Et ils ont trouvé effectivement que c'était une circulaire interne lancée par les syndicats de la poste qui demandait à ce qu'ils ne doivent pas monter un étage pour distribuer la lettre. Donc, ils mettaient juste dans la boîte aux lettres.
Voilà. Mais remarquez que ça a fait la fortune de certaines sociétés privées, comme DHL, World Courier, FedEx, qui, eux, montent les étages à la place des postiers. Mais ça coûte plus cher.
Ça coûte plus cher. Mais maintenant, Amazon, c'est livré dans à la perfection.
Oui, tout à fait. Et alors, vous avez un de vos chapitres s'intitule, je crois, « Un État expert en trucage ».
Oui.
Vous pouvez peut-être expliquer ça aux auditeurs, car c'est assez édifiant.
Le fait de voir l'État et surtout les organismes qui défendent l'État de publier des chiffres qui ne correspondent pas aux réalités, des statistiques, de nier la réalité, les chiffres du chômage, les vraies dépenses publiques. Et en fait, cela a été confirmé par la Cour des comptes, qui a dit plusieurs fois qu'elle était incapable de donner le nombre exact de fonctionnaires. Ce qui est quand même incroyable, même la Cour des comptes, parce qu'on n'a pas vraiment un fichier, des statistiques fiables.
Oui.
Donc si, c'est un aveu d'impuissance, parce que ça coûte cher.
Ce
sont les contribuables qui payent. Donc si on a une marge, je ne sais pas, 200 000 euros, mais 200 000 fonctionnaires, c'est énorme. Donc, à 200 000 fonctionnaires près, ça fait quand même des dépenses en plus payées par les contribuables.
Oui. Mais, et là, dans ce chapitre, vous expliquez que, d'après le tableau fait par l'État, le nombre de fonctionnaires de l'État aurait baissé de 1990 à 2001, aurait baissé de 9%. Et puis après, il y a eu une prise en compte de la réalité. Enfin, je vous laisse expliquer peut-être.
Oui, après, en fait, je mets en cause aussi l'INSEE, qui est quand même l'Institut de statistique nationale, qui a le monopole en France.
C'est ça.
Ce qui n'est
encore
pas
un organisme qui a un monopole dans le pays du monopole. L'Europe nous oblige quand même à supprimer les monopoles. Donc je dis ça à cette radio qui est très anti-européenne, anti-bureaucratie européenne. Ils ont bien raison là-dessus. Mais l'Europe a parfois du bon, parce qu'elle supprime les monopoles. Enfin, revenons à notre sujet. Donc là, il y a eu trucage quand
même. Oui, donc si on regarde les chiffres, l'INSEE ne donne pas les chiffres bruts. Ils sont déjà retravaillés. Donc il y a des interprétations.
Oui.
Alors nous, aujourd'hui à l'IREF, par exemple, on veut des chiffres bruts. À nous de les interpréter ou de les donner comme il faut. Donc si on vérifie, on n'a pas d'autres sources d'informations, Bercy est fermé, je veux dire qu'il est opaque,
oui.
Donc on ne peut pas savoir le nombre exact de fonctionnaires à Bercy. On donne un chiffre, mais il faut le vérifier, impossible de vérifier. Donc c'était le cas, je donne des exemples comme ça dans ce chapitre, et je finis par dire qu'il faut vraiment une concurrence des instituts de statistiques, ouverture, et je donne l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, si vous voulez savoir le nombre de femmes de ménage au Pentagone, ça prend 5 minutes pour l'apprendre.
Ah oui.
Ils sont obligés de le publier. Et pourtant, c'est le Pentagone.
Ben donc, oui. Mais ils sont plus efficaces, quoi. Ou moins opaques, disons.
Tout est publié, les oui. statistiques, ils ont des sources différentes et il n'y a pas de problème.
Oui. Oui, oui. Bon, alors, un autre problème, évidemment, qui persiste et qui continue, ce sont les grèves. Organisé par les syndicats dans le secteur public. Là non plus, ça n'a pas cessé comme en Angleterre avec Margaret Thatcher. Chez nous, ça continue. Et on a appris récemment que les contrôleurs aériens allaient se mettre en grève pour une journée pour obtenir ceci ou cela. C'est-à-dire, en réalité, les grèves sont un moyen d'extorquer un avantage ouais. indu à certains salariés. Et vous en parlez beaucoup dans
oui, oui, dans tout à fait. Film. Alors, le comble, ce sont les plus privilégiés qui font grève.
Absolument.
Alors, les contrôleurs aériens, j'invite nos auditeurs à postuler à devenir contrôleur aérien parce que c'est très, très bien payé. Il y a beaucoup de vacances et on part très tôt à la retraite avec une retraite largement au-dessus de la moyenne des Français. Et pourtant, ils font grève.
Oui.
Pareil.
Et puis, il y en a parmi eux qui, quand ils partent à la retraite, vont travailler dans d'autres pays
et continuer
d'exercer leur talent. Parce qu'il y a des gens qui aiment travailler, qui aiment leur
bien
travail.
Bien sûr. Et puis, dans d'autres pays, c'est ouvert à la concurrence, au privé. Oui. Donc, des grèves, contrôleurs aériens, SNCF, bien sûr, RATP, ce sont des secteurs où on peut bloquer les pays. Donc,
c'est
du coup, ça. Ils sont gagnants pratiquement à 100% à chaque fois. Donc,
voilà.
On rajoute des primes, on compense.
Et évidemment, on n'a pas de gouvernement qui ose utiliser l'arme juridique. Moi, je l'ai fait pour des privés.
Oui.
J'ai attaqué les syndicats et une fois, après les avoir assignés en justice pour une astreinte de... À l'époque, c'était 100 000 francs par jour, voire par heure, je ne sais plus parce que c'est vieux. On s'est mis autour d'une table parce que, j'ai appliqué le principe de Theodore Roosevelt. Et qu'est-ce que c'était ? Parler d'une voix forte, d'une voix douce, mais porter un gros bâton. Donc, on a négocié. Et il est sûr qu'après l'assignation, on négocie mieux que si on n'a rien fait. Mais les gouvernements n'osent pas faire ce genre de choses.
Alors, ce qui change un peu aujourd'hui, c'est qu'on parle de leurs privilèges.
Oui,
donc il y a même des politiques qui l'ont dit et voilà, contrôleur aérien 7000 euros par mois, plein de vacances et puis on a les réseaux sociaux.
Oui.
Donc ça circule.
C'est ça.
Ça circule c'est et ça. Puis les gens sont estomaqués, ils disent voilà, c'est pas possible, ça peut pas durer. Donc du coup, il y a une forme de pression indirecte sur les syndicats pour qu'ils arrêtent leur grève. Trop c'est trop.
Ben oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est certain. Alors, donc là, on pourrait multiplier, mais comme on a un temps limité, on ne va pas le faire là, mais on pourrait multiplier les exemples que vous donnez dans votre livre. Moi, je conseille vraiment aux éditeurs, même si c'est un livre qui date d'il y a 20 ans, il est tout à fait d'actualité. Alors, allez l'acheter, j'espère qu'il est toujours
parce qu'on
vente.
Peut le commander sur Amazon.
Ah, ouais. Ben voilà, commandez-le sur Amazon, parce qu'il y a un nombre d'exemples tout à fait édifiants. Pour vous, amis auditeurs. Alors, maintenant qu'on a vu tout ce qui ne va pas en France, peut-être nous pourrions aborder, c'était le dernier chapitre de votre livre, et vous avez expliqué que Parce qu'on a tendance à penser, bon, en France, c'est foutu, on ne peut rien faire, les syndicats et les élites tiennent le pays d'une main de fer. Bon. Mais pourtant, il y a des pays qui sont nombreux où ça ne s'est pas passé comme ça, où il y a une thérapie de choc qui a été appliquée. Alors, je n'en dis pas plus, je vais vous laisser, Nicolas Le Cochin, expliquer ce que vous dites un peu dans votre dernier chapitre. Qu'est-ce que ça s'appelle, je crois, à l'Est, il y a du nouveau.
Oui. C'est ça. Enfin, je donne l'exemple de plusieurs pays qui ont fait des réformes. Mais tout d'abord, il y a eu, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'ouverture à la concurrence qui est partie de Bruxelles.
Oui, donc, voilà, une bonne chose.
Il y a plein de raisons de critiquer Bruxelles, mais s'il n'y avait pas eu cette ouverture à la concurrence, on serait toujours avec France Télécom.
Absolument.
Et Air France sur toutes les lignes.
Et il n'y aurait pas les Italiens sur le rail pour aller à Milan.
Exactement, voilà. Et on ne prendrait pas l'avion avec, à 50 euros pour aller à Rome.
Voilà, tout à fait, oui.
Donc ça, il faut pas l'oublier. Donc
n'oublions
ça...
pas, je rappelle aux auditeurs, pédagogiquement, que l'avion à 50 euros, ça n'existait pas autrefois quand il y avait un monopole dont bénéficiait Air France sur certaines lignes.
Sans oublier les grèves.
Sans oublier les grèves, absolument. Donc parfois, la concurrence, je le dis aux auditeurs de Radio Courtoisie qui ne sont pas toujours des enthousiastes de la concurrence, parfois la concurrence a du bon car elle nous permet de progresser.
Mais tout le monde en profite. Hein, donc.
Voilà. Alors, revenez donc aux exemples étrangers.
Voilà, je donne des exemples classiques. Oui. Thatcher, vous l'avez mentionné, Reagan qui ont fait des réformes libérales au Canada avec des gouvernements de centre-gauche même.
Oui.
Et même des pays nordiques, Suède, Danemark, qui ont ouvert à la concurrence leur administration. Qui ont ouvert à la concurrence le marché de l'emploi. Au Danemark, c'est l'un des pays, sinon le pays où c'est le plus facile de licencier quelqu'un. Donc, même plus qu'aux États-Unis.
Oui.
Donc voilà, on parle beaucoup de leur système social et autres, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un pays où il y a beaucoup de concurrence, où le marché décide, ils sont attachés à cela.
Et comme par hasard, la gauche qui gouverne au Danemark, elle a été reconduite.
Exactement, comme par hasard. Et d'ailleurs, je le dis, dans tous les pays où on a fait des réformes, les gouvernements ont été réélus.
Oui, exactement.
Et ce que nos politiques ne comprennent pas.
Ils pensent
qu'il ne faut pas faire des réformes pour ne pas perdre les élections, mais en fait, ils les perdent.
exactement. Oui, tout à fait. Donc, il y avait en fait deux méthodes, c'est ce que vous expliquez dans votre livre. La thérapie de choc qui a été appliquée en Pologne,
en République tchèque,
en Hongrie, en État baltes. Et la méthode gradualiste qu'a suivi plutôt, dites-vous, la Roumanie, la Bulgarie, l'Albanie.
Oui,
alors, est-ce que vous pourriez expliquer un peu la différence entre les deux choses et aussi la différence de résultat?
Alors, en Pologne, ça a été une réforme, on a privatisé, tout comme privatisé, on a ouvert à la concurrence. Il y a eu vraiment des économistes libéraux qui s'en sont occupés, ce qui malheureusement, et dans les pays baltes aussi, ce qui malheureusement n'a pas été le cas dans des pays comme la Roumanie, où je suis d'origine roumaine.
Ah oui, c'est vrai que vous vous appelez Bogdan Kalinescu.
Voilà.
Oui.
Et où il y a eu des anciens apparatchiks qui ont repris le pouvoir et qui ont essayé d'abord de mettre la main sur ce qu'on pouvait mettre, ce qu'on pouvait confisquer de l'ancien parti communiste, et puis ils ont mis le frein sur les privatisations, la concurrence, donc ça a duré beaucoup de temps, et on a vu la différence. La Pologne s'est très rapidement développée,
et croissance fantastique,
comme les Tchèques, comme les...
Je pourrais donner un petit exemple polonais pour illustrer votre propos. Moi, j'avais un arbitrage en 1989, juste avant la chute du mur de Berlin, à Gdynia, en Pologne. Et on est venu, on a plaidé. Le pays que j'ai vu était un pays très pauvre, avec une nourriture infecte, assez misérable, et des gens vraiment pas motivés pour le travail.
Ouais,
Mon adversaire, lors du procès, moi j'arrivais avec un dossier gros comme une main, lui il est arrivé avec une feuille. Parce que le communisme, c'est pas seulement que ça rend les gens nocifs, mais ça, aussi, ça les range aussi paresseux. Donc ouais. ça m'a bien fait mon affaire dans l'arbitrage en question. Puis je suis revenu pour les Journées mondiales de la jeunesse en 2016 dans ce pays. Mais c'était le changement du tout au tout. C'était gai, c'était joyeux, il y avait du monde. On avait une impression d'un pays qui en 20 ans, plus que ça même, oui, ouais. Revivait. Donc, c'est frappant. Une croissance extraordinaire.
Merci de mentionner ce chapitre, parce qu'il suffit de regarder le PIB par habitant dans tous ces pays.
Ah oui, voilà, bon exemple.
C'est une explosion, y compris en Roumanie d'ailleurs. Ils ont dépassé largement beaucoup de pays, ce qu'on appelait de l'Ouest. Et la Pologne, la République tchèque, la Slovénie, sont des pays de plus en plus riches.
Oui, c'est ça.
De plus en plus riches, ils vont être de plus en plus riches, vont dépasser la plupart des pays de l'Ouest. Et en plus, il n'y a pas eu seulement cette ouverture à la concurrence, les privatisations, mais aussi la flat tax, donc l'impôt à taux unique.
Ah oui, baisse de la fiscalité.
Baisse de la fiscalité, ouais. 10-15%, donc c'est... Ouais.
Et recul quand même général de l'État.
Et recul de l'État aussi dans la plupart des pays.
Vous pourriez donner quelques exemples des...
Il y a eu... en fait, quand on sort du communisme, on doit tout refaire. L'économie communiste ne correspond à rien.
On doit tout refaire, oui, c'est ça.
Les statistiques correspondent à rien.
Vous connaissez la blague, c'est facile de transformer un aquarium en soupe de poisson, mais c'est très difficile de transformer une soupe de poisson en aquarium.
Exactement. Et il y avait des millions de personnes qui étaient obligées de travailler pour l'État, parce que c'était l'État qui les embauchait. Donc du coup, on les a licenciés. Ça a été le cas en Pologne. Et ils ont dû aller dans le privé, dans les pays baltes aussi, dans les pays République tchèque aussi. Donc ça a été un drame au début.
Oui,
ça a porté ses fruits, parce qu'on voit les résultats, aujourd'hui. Donc ce sont des exemples très, très significatifs, parce que ça montre que les réformes, ça paye.
Oui.
Les réformes libérales,
si
ça paye.
Si on ose, ça peut marcher, si on ose, ça marche généralement.
Si on ose, ça peut marcher. Donc oui. Ça, c'est très important.
Toute la question, c'est de savoir oser pour les politiques et de savoir suivre... Pour l'administration, de savoir appliquer la politique.
Tout à fait.
Car en France, c'est un peu parfois saboté.
Et je me souviens à l'époque, la gauche française qui critiquait la thérapie de choc en Pologne, c'est des ultra-libéraux, des libéraux sauvages.
Et ça va donner une paupérisation.
Une paupérisation,
C'est ce qu'ils annonçaient. Et vous dites dans le livre que ça ne s'est pas du tout produit.
Ça ne s'est pas du tout produit. C'est ce qu'ils font avec Milei, d'ailleurs, aujourd'hui.
Avec qui?
Avec Javier Milei.
Ah oui, avec Javier Milei, qui est l'exemple d'aujourd'hui pour les libéraux. Oui, tout à fait. Où on voit le changement qui s'est amorcé en Argentine.
Tout à fait.
D'ailleurs, vous donnez aussi l'exemple chilien, qui est plus ancien que l'Argentine. Vous pourriez expliquer l'histoire des retraites et tout ça.
Les Chiliens sont passés de la retraite par répartition à une retraite par capitalisation, pratiquement du jour au lendemain. La réforme a été racontée par quelqu'un.
Ça, c'était dans les années 80. La fin de Pinochet et le début de la démocratie.
Voilà. Alors, Pinochet, qui était un dictateur, bien sûr, a fait quelques réformes libérales.
Oui, c'est ça.
Et il est parti d'ailleurs démocratiquement.
Absolument, en ayant un pourcentage de voix presque égal à 50%.
Tout à fait. Tout à fait. Et donc ces réformes ont été racontées par José Pinera.
Ah oui, Pinera qui a été président. Ah non, c'était le frère
c'était
du
le
président.
Frère, c'était le frère. Non, lui, il s'occupait de des retraites, la réforme des retraites.
Ah oui.
Il a sorti des livres. Et il m'a dit que la chose la plus importante, c'était d'amadouer les syndicats.
Oui. Comment les a-t-il amadoués?
Alors, il leur a laissé du patrimoine. Ils étaient très contents. Ils avaient des maisons, ils avaient des châteaux, des immeubles. Et il leur a dit, voilà, vous gardez le patrimoine et on fait la réforme. vous faites ce que vous voulez. Mmh. Ils étaient contents de garder tout cela et d'accepter le passage à la capitalisation. Donc il faut toujours du donnant-donnant.
Ben oui, 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 ben, ça je connais ça par cœur, oui, alors, oui, tout à fait.
La CGT a beaucoup de patrimoine en France aussi.
Oui, tout à fait, qu'on pourrait saisir d'ailleurs.
Ben, oui. Vous connaissez mieux que moi.
Ah oui, d'accord. Et donc c'est comme ça qu'il a négocié le passage.
Il a bien négocié, oui, oui, oui.
Et alors, le résultat de ce passage à la retraite par capitalisation est tout à fait éclairant, parce que ouais. Si nous faisions ça aujourd'hui...
Si on avait fait ça à l'époque, il n'y aurait pas
ces problèmes terribles de...
La catastrophe d'aujourd'hui.
La catastrophe. Ouais. Parce que la catastrophe, c'est qu'on a de moins en moins d'actifs, de plus en plus de retraités, et on va arriver à un moment où il n'y aura plus assez d'actifs
exactement.
Pour payer
sans oublier les retraites des fonctionnaires.
Hein. Voilà, oui, exactement, les régimes spéciaux qui pèsent lourdement. Ouais, ouais. Mais alors, évidemment... Pour cela, ça suppose de sortir du système, du régime par répartition. Et en France, on en est loin.
On est loin. Alors, il y a des piliers par capitalisation pour les fonctionnaires, pour les sénateurs.
Voilà.
Donc,
ils ont compris le système qui marchait bien.
Et ils ne nous laissent pas le faire pour nous dans le privé.
Ils ne nous laissent pas le faire, ils nous les interdisent, mais ils le prennent pour eux.
Ils le prennent pour eux, exactement.
C'est quand même... une bonne démonstration.
On pourrait d'ailleurs élargir le système par capitalisation pour les fonctionnaires au privé, c'est ce qu'on propose à l'IREF aussi, donc et la capitalisation à partir de là pour donner la possibilité aux personnes du privé d'avoir un pilier capitalisation aussi.
Ah oui, ouais. Oui, oui. Vous proposez ça à l'IREF.
À l'IREF, oui,
d'accord.
Tout à fait, oui.
Parce que l'IREF, c'est une sorte de club de réflexion de ce qu'on a
c'est
les Anglo.
C'est un institut privé qui
think fait tank,
des...
quoi.
Oui, oui, tout à fait. On
fait des propositions.
Qui fait des propositions et qui publie une lettre quotidienne, Contrepoint. Donc j'invite, on a deux sites, contrepoint.org et ireferop.org. Donc j'invite les auditeurs à s'abonner gratuitement à notre lettre.
Oui.
On vit que des dons privés, pas de subventions publiques.
Très bien, c'est le moment.
On n'est pas syndiqué.
Ça vient de se terminer. C'est le moment de faire des dons privés.
Exactement.
Ouais. C'est Jean-Philippe Delsol qui anime,
qui est président.
Ouais. Ouais. Et donc, effectivement, c'était... Alors, est-ce que vous pourriez... On sort un peu de votre livre, là, mais... indiquer d'autres solutions proposées, d'autres mesures proposées par IREF.
Alors, on travaille bien sûr avec les politiques qui sont intéressées par nos propositions. Nous sommes apolitiques.
Hein,
donc même si quelqu'un de gauche vient nous voir, il nous dit voilà. Votre proposition et nous intéresse, pourquoi pas D'ailleurs, on a parlé des exemples de réformes dans des pays gouvernés par la gauche.
Exactement,
la réforme
oui.
libérale. Et on propose d'abord un État régalien sur les missions régaliennes, suppression du statut du fonctionnaire, sauf...
Comme ils ont fait en Suisse, par exemple.
Par exemple, oui.
Mais apparemment, les nouveaux fonctionnaires suisses, qui sont plus... au statut public, ils sont plutôt contents de cette
exactement. D'ailleurs, en Allemagne aussi, il y a beaucoup de contrats de droit privé. En Suède aussi, donc au Canada aussi. Donc c'est l'État doit s'occuper de ce qu'il regarde.
Oui.
Le régalien, la sécurité, voilà, la défense. Et ce qu'il ne fait pas, hein, on le voit.
C'est vrai.
Il s'occupe de tout sauf de la sécurité. Donc,
On a eu la bonne illustration il y a quelques jours.
Bien sûr. Donc on propose aussi le passage à la capitalisation. On montre comment on peut le faire. Il faut arrêter avec ces privilèges du régime de retrait des fonctionnaires qui sont payés par les contribuables, ça il faut pas oublier. Donc c'est un jeu d'écriture. Il y a pas de les fonctionnaires n'ont pas de caisse et c'est l'État qui les paye donc l'impôt les contribuables.
Oui.
Donc ça les gens ne savent pas ou très peu. On est aussi pour une réforme fiscale concrète avec un taux unique à 15%. Et on a montré que si on instaurait un taux unique à 15%, mais tout le monde paye l'impôt. À partir d'un certain niveau de revenu, bien sûr.
Oui.
Aujourd'hui, 54% des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu. Donc c'est,
54%, oui.
C'est scandaleux.
C'est vrai. Oui.
15%.
Ce qui explique d'ailleurs pourquoi il y a tellement d'endroits où la gauche s'est maintenue au municipal, parce que à Paris, dans bien d'autres grandes villes, il y a un tas de gens qui ne payent rien. Donc, ils sont toujours d'accord pour la dépense publique, puisque ça ne leur coûte à eux rien du tout.
D'où notre méfiance et ma méfiance envers les référendums. Attention, parce que si on fait un référendum pour oui ou non le retour de l'ISF, ça va passer parce que les gens ne payent pas l'ISF ou augmenter les impôts. Quand 54% des Français ne payent pas d'impôts, bah, ils s'en fichent. Ils
peuvent, ils sont pour augmenter. Mais alors, c'est pour ça que le référendum qu'il faut envisager, c'est plutôt un référendum d'initiative populaire, où ça ne vient pas des politiques, c'est comme en Suisse, si vous voulez, ou des
groupements. Oui, mais oui, ils sont habitués à ça.
Ils sont habitués à ça depuis très longtemps.
Mais méfions-nous des référendums, quels qu'ils soient, sur les impôts, les dépenses publiques.
La privatisation des aéroports, ADP, ça patine.
Oui, oui.
Parce que, justement, ils proposent un référendum.
Oui, tout à fait, oui. Donc, quand vous avez tant de gens qui dépendent de l'État...
Oui.
C'est risqué de faire un référendum.
Ouais. Oui, oui. Et c'est vrai qu'en France, beaucoup de gens dépendent de l'État.
Oui, tout à fait.
Et alors, qu'est-ce que vous proposez d'autre à l'IREF?
Donc, j'ai dit une flat tax, un impôt unique à 15%.
Oui.
J'ai dit, bien sûr, suppression des organismes publics et parapublics complètement inutiles. On en a fait la liste.
Ah oui.
Des dizaines de milliards qui sont jetés par les fenêtres. On a...
Les comités Théodule.
Les comités Théodule. Donc, on peut faire des économies de jusqu'à 200 milliards d'euros très rapidement, donc ce qui est beaucoup.
Tant que ça, oui.
Donc, on a fait la liste aussi. Et on est pour la liberté scolaire, autonomie et concurrence entre les écoles, pour le chèque éducation. C'est aux parents de choisir l'école pour leurs enfants. Donc, c'est une liberté essentielle, c'est le droit des parents de choisir et mettre en concurrence les écoles. Comme ça, on élève le
niveau. Oui, parce que là, le problème, évidemment, c'est que comme il y a une baisse du nombre des élèves vu la baisse de la démographie, avec l'accord entre les écoles privées catholiques et les écoles publiques, les écoles privées catholiques qui sont très sollicitées, parce que le niveau est meilleur, sont obligées de réduire le nombre de classes. Donc évidemment, si vous réussissiez à instaurer un régime de pure concurrence et de liberté, ça n'existerait plus.
Mais quand on voit les résultats des écoliers français dans les classements internationaux, c'est catastrophique. Donc
catastrophique,
Bon, c'est vrai que l'éducation nationale, c'est un mammouth qui est contrôlé par les syndicats là aussi. Donc il faudra vraiment donner un coup de pied dans la fourmilière.
Je vois. Et d'autres solutions, on a fait le tour.
On est privatisation, bien sûr. L'État n'a pas à s'occuper de tout sauf du régalien. Sécurité, défense. Donc on fait confiance aux Français. C'est à eux d'être responsables.
Mais alors le problème, évidemment, c'est que s'il y a un changement de gouvernement aux prochaines élections présidentielles, est-ce que les nouveaux vont adopter vos mesures? On n'est pas loin d'être sûr.
Nous, on se bat pour qu'ils le fassent. On a rencontré des candidats comme David Lisnard, Bruno Retailleau.
Ah, David Lisnard est un vrai libéral.
Oui, c'est un vrai libéral.
Oui. Mais il n'y en a pas beaucoup d'autres.
Il n'y en a pas beaucoup d'autres. On a reçu Bruno Retailleau, qui a été sensible à certaines propositions.
Je
pense qu'ils doivent connaître que s'ils ne font pas des propositions de réforme libérale, ça ne marchera pas. Donc ça va être la même soupe.
Exactement. Mais malheureusement, Marine Le Pen et Jordan Bardella, ils ne sont pas tellement sur cette ligne.
Non, ils ne sont pas tellement sur cette ligne, c'est plutôt étatiste. Donc ils vont continuer avec
les mêmes problèmes.
Ça ne va pas résoudre les
Alors,
problèmes.
Il faut voir si il ne va pas y avoir, dans l'année qui suit, un infléchissement des programmes de ces partis-là.
On va voir. Ouais. Donc c'est ce qui manque à la France et c'est ce qu'ont fait les autres pays. S'ils De toute façon, on ne peut pas continuer avec des dépenses.
Ah oui.
Être champion du monde de la dépense publique, des prélèvements obligatoires, des dépenses sociales. Donc
il nous faudrait un Javier Milei,
il
quoi,
nous faudrait
en France.
Un Javier Milei, effectivement.
Mais
qui a le courage.
On n'est pas encore bien prêt à tout ça.
Lui, il a le courage de dire la vérité.
Grâce à aussi, parce qu'il y a des formules comment, cathartiques, si je puis dire, avec sa tronçonneuse, là. Il symbolisait l'effort à faire. Et bon, j'aimerais bien qu'on ait un David Lisnard qui fasse la même chose.
Exactement, on aime aussi. C'est le seul aujourd'hui qui prend comme exemple Javier Milei. Et il est très bon. Il faut le connaître. Donc il faudrait qu'il soit le candidat.
D'ailleurs, il a été réélu avec plus de 80% à Cannes. Donc ça prouve que.
Il se cache pas. Avant, les politiques avaient peur de prononcer le mot libéral. Lui, il se cache pas.
Alain Madelin n'avait pas peur, mais c'était bien le seul.
Oui, ça dépendait de l'auditoire.
Bon, vous le connaissez mieux que moi.
Oui, mais j'ai travaillé un peu avec lui.
Moi aussi. Bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de tout cela. J'ai l'intention, après cet entretien, de citer quelques paragraphe de votre livre, mais nous allons arrêter là l'entretien. Et encore une fois, je recommande aux éditeurs de vous procurer cet excellent livre qui s'appelle « Cet État qui tue la France » de Nicolas Lecochin, édité chez Plon, et qui répertorie toutes les anomalies françaises, qui est une sorte de classification du mal français. Et vous avez encore un mot de conclusion ?
Qui est un point d'actualité, hélas.
Hélas, il est d'actualité alors qu'il a été écrit en 2005, je crois, et nous sommes en 2026. Bon, espérons que cela inspirera les politiques. Merci Nicolas Lecochin.
Merci à vous.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Alors je vous lis maintenant, amis auditeurs, un message que j'ai reçu là, qui me paraît tout à fait bon. Voilà ce que nous dit une auditrice. Les salaires dans le public sont encadrés par la réglementation de façon rigide. Cela défavorise depuis toujours les compétences techniques, que ce soit dans les hôpitaux comme à EDF. Il n'est pas scandaleux que des gens qui apportent une réelle compétence, qui prennent des risques dans leur métier, comme l'exposition aux champs électriques à basse fréquence de forts gradients, prouvés cancérigènes, soient mieux payés que les bureaucrates et bénéficient de primes qui devraient leur être réservées. Voilà une proposition audacieuse que j'approuve pleinement. Et ça se termine comme ça. Ce qui est plus scandaleux, c'est le traitement de certains gratte-papiers de la Sécu qui sont plus proches du parasite. Je suis d'accord avec vous, madame. Alors, comme je l'ai promis tout à l'heure dans l'entretien que j'avais avec Nicolas Lecochin, je vais vous lire quelques extraits de son livre et qui me paraissent bien illustrer ce qu'il a dit sur les solutions pratiquées à l'Est. Voici. Les pays ayant choisi la thérapie de choc ont aujourd'hui une économie beaucoup plus saine que les autres. La Pologne a vécu sous le gouvernement Balcerowicz une vraie révolution économique. Suppression totale de toutes les subventions étatiques, privatisation massive des entreprises qui pouvaient l'être, libération des prix, ça on n'a pas parlé de ça, on ne pouvait pas tout traiter, mais libération des prix, ouverture commerciale totale. Malgré une période de récession, les résultats de ces mesures sont évident. Après une croissance de 5,5% en moyenne entre 1995 et 2000, le secteur privé représente 70% de la production nationale polonaise et le chômage a baissé pour se stabiliser autour de 9%. Alors vous pouvez me dire, oui mais ça c'est la Pologne. Bon, autre exemple. De même, la République tchèque, sous le gouvernement de Václav Klaus, a préféré la méthode dure. Privatisation massive et fermeture des mastodontes industriels extrêmement coûteux. Et aujourd'hui, ce pays connaît un chômage de 8,9%, l'apparition d'une véritable classe moyenne, une extraordinaire flexibilité du marché du travail, 15% de la population a changé de métier entre 1995 et 2000, une inflation à 4%, ce qui n'est pas beaucoup quand même, et il est devenu le pays préféré des investisseurs étrangers, 5,6 milliards de francs en 2000. Alors vous me dites, c'est la République tchèque, il n'y a que... Bon, la Hongrie maintenant. La Hongrie entre dans la même catégorie de pays qui marche. Les investissements étrangers représentent 41% du PIB en 1999, contre 27% en Estonie, 19% en Pologne. Le chômage est en baisse et le salaire moyen en hausse continue. Après avoir créé enfin la Slovénie, la petite Suisse de l'Est, après avoir créé en 1991 sa propre monnaie, le tolar, a mis en place des réformes économiques ardues, reconstruction des infrastructures, restructuration de l'industrie privée et création de deux fonds de capital risque pour soutenir la création d'entreprises. C'est un pays qui connaît aujourd'hui une croissance autour de 5% l'an, hein, c'est quand même mieux que nos 1%, une inflation à 6% tout de même, et un salaire moyen de 540 euros par mois. En 2000, le secteur privé représentait 80% en Hongrie, République tchèque et Slovaquie, et plus de 65% en Pologne et aux Pays-Baltes. Aujourd'hui, la Pologne est considérée comme étant 300% plus riche qu'en 1990, avec une inflation minime de 0,7%. Le salaire mensuel y est de 408 euros, 4 fois plus qu'il y a 14 ans, et seulement 20% des entreprises sont encore contrôlées par l'État. En Hongrie, 80% des habitants de Budapest sont propriétaires. 8 Hongrois sur 10 possèdent un portable. Et seulement 1% d'entre eux quitteraient leur pays pour aller travailler à l'Ouest. Donc voilà ce que ça donne, la thérapie de choc. À l'opposé, dit Nicolas Le Cossin, les mauvais élèves de l'Europe, pardon, les mauvais élèves de l'Est, de l'Europe de l'Est, sont les pays qui ont choisi le gradualisme, c'est-à-dire y aller doucement, pas de thérapie de choc. La Roumanie, la Bulgarie, l'Albanie et la Russie se sont contentés de réformes timides faites par d'anciens apparatchiks et incapables de comprendre le fonctionnement d'une économie de marché. Tous ces pays connaissent, à part la Bulgarie, une forte inflation, 25% jusqu'à 45%. Connaissent aussi la méfiance des investisseurs étrangers et la stagnation du pouvoir d'achat. En outre, la Russie est, on le sait, rongée par une corruption qui touche, hélas, toutes les sphères de la société. Alors voilà ces extraits que je voulais vous citer pour illustrer les propos que vous venez d'entendre de la part de Nicolas Le Cossin. Il nous reste encore un peu de temps avant le feuilleton, et puisqu'on parle un peu de tous les pays, je voudrais vous donner une illustration des pays où il n'y a pas de liberté et pas de démocratie. On parle beaucoup de l'Algérie en ce moment. Eh bien, un des intellectuels algériens en vue et qui a publié beaucoup, c'est pas Boualem Sansal, c'est Kamel Daoud, a écrit là-dessus. Il a écrit un article que vous pouvez lire dans la revue des Deux Mondes et de mars dernier. Et ça s'appelle « Un amour français ». Bon, je ne vais évidemment pas vous lire tout l'article, sinon on y serait encore des heures plus tard. Mais je voudrais vous lire un petit extrait qui me paraît révélateur de ce qu'est un amour français de la part d'un Algérien. Voici la citation. « Dans ce pays, » il parle de la France, hein, « dans ce pays, je peux lire, écrire, rêver, m'asseoir dans les jardins sans inquiéter la police, rencontrer des lecteurs dans une librairie sans que le libraire ni moi n'ayons mal au ventre de peur. Je peux voyager de village en village sans craindre les contrôles. Je peux veiller tard, marcher, boire des vins au soleil en plein air et admirer le long âge des pierres des grandes villes. Alors c'est sûr que on n'a pas des libraires qui ont mal au ventre quand on vient dans une librairie acheter des livres qui ne sont pas recommandés par le pouvoir, mais c'est le cas en Algérie. Je continue la citation, « Je peux écrire dans un bistrot sans que ce geste constitue une menace pour la sécurité de l'État. » Donc j'en déduis, si Kamel Daoud dit ça, c'est que s'il écrit dans un café, hein, dans un bistrot, les autorités peuvent considérer que c'est une menace pour la sécurité de l'État. Enfin, il faut dire qu'on met en prison des écrivains simplement pour leurs opinions. Alors je continue cette citation qui me paraît très éclairante sur l'amour de la France. Je peux envoyer mes enfants à l'école et espérer leur éducation sans crainte qu'on leur bourre la tête de mensonges sur la vie. Là, je ferai un petit bémol parce que je suis pas sûr que dans toutes les écoles françaises, ça soit comme ça. Mais je continue la citation. Je peux toucher la main de ma femme en public. Je peux l'embrasser dehors, devant tous. Et je peux aller où je veux dans le monde, en me disant français, avec un passeport français, et dans la tête, des citations de grands romanciers pour le prouver. Et je m'interroge souvent, dit Kamel Daoud, sur les valeurs françaises que j'aime et que je ne retrouve nulle part ailleurs. D'abord, il y a la laïcité, celle qui protège même celui qui croit en un dieu ou en un au-delà. Il y a le goût des choses, le culte du mets, l'éducation aux vacances, cette férocité intellectuelle qui sert à brouiller l'image du monde par la révolution ou à l'éclairer par la philosophie. Il y a l'accessibilité des gens dans les villages, malgré ce que répètent les haineux. Le culte du beau. Le droit à la promenade. La religion des écrivains et des livres. L'admiration incroyable pour l'écrivain. L'amour obstiné du livre. Une si vieille histoire encore vive. Enfin, on vit cette démocratie au point qu'on s'autorise à insulter la démocratie elle-même comme si la liberté allait de soi. Alors, je vais arrêter là cette citation, mais avouez que c'est quand même pas mal ce qu'écrit Kamel Daoud. Je passe à un autre sujet. Dimanche dernier, le 31 mai, c'était la fête de la Trinité, la Sainte Trinité. Alors je voudrais vous lire maintenant ce qui a été dit par Saint Anselme à ce sujet. Je pense que ça peut vous intéresser. Il fait une métaphore, Saint Anselme, pour expliquer la Trinité. Et voilà ce qu'il dit. Nous, les pécheurs, sommes comme des diamants tombés dans la boue. Faits à l'image de Dieu, nous nous sommes souillés par la violence et la haine. Dieu aurait pu simplement prononcer une parole de pardon depuis les cieux, mais ça n'aurait pas suffi. Dans sa passion à rétablir la beauté de la création, Dieu est descendu dans la boue du péché et de la mort et a remonté les diamants, les a époustés. Ce faisant, bien sûr, Dieu a dû se salir. Ce fait de s'enfoncer dans la boue, hein, la solidarité divine avec les perdus, est le sacrifice que le Fils fait à l'infini pour l'amour du Père. C'est un sacrifice qui exprime non pas la colère ou la vengeance, mais la compassion. L'homme aujourd'hui doit répondre, il est toujours libre, Dieu le veut ainsi, s'il accepte d'être sauvé, il l'est, mais a-t-il conscience qu'il doit l'être ? Et nous pouvons alors citer la phrase de l'Évangile, si tu crois que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu es sauvé. Non, ce n'est pas l'Évangile, je crois, c'est l'Épître aux Romains. 10:9. Nous arrivons au moment où nous allons vous quitter pour passer le feuilleton. Et je voulais simplement préciser que j'avais beaucoup d'admiration pour le pédiatre psychologue des enfants, Aldo Nauri, qui nous a quittés. Et je pense qu'il faudra faire une émission au sujet de ce grand professeur de médecine, qui est lui aussi d'ailleurs un expatrié, puisqu'il est né en Libye, et il est venu en France. Donc on fera une émission là-dessus, peut-être à la rentrée ou au cours de l'été, je verrai, je vous dirai, une émission consacrée au professeur Aldo Nauri, qui était un des rares pédiatres et psychiatres qui appliquaient des méthodes conservatrices. Dans une interview au Point, il a notamment indiqué, quand on lui dit « Mais comment se fait-il que les jeunes adultes font de moins en moins l'amour, de moins en moins de rapports sexuels ?» Et il répond une phrase très courte, mais que je trouve tout à fait éclairante. « On a tué le sexe en voulant l'éduquer. » Il parle de l'éducation sexuelle. Il fallait lui conserver son mystère. Voilà, sur ces belles paroles, je vais passer la transmission à la technique pour avoir la suite du feuilleton que nous avons entendu la dernière fois.
Radio Courtoisie, histoire à la loupe. Sur Radio Courtoisie, voici la quatrième partie du récit Marie-Josette Liégeois de Patrick Simon. Montage et arrangement sonore, Sandrine Moutier.
L'application Waze de la Fiat 500 guidait Walid vers sa destination et affichait le nombre de kilomètres restant à parcourir. Il avait opté pour une musique de rap qui résonnait à plein tube dans l'habitacle.
Il va falloir se taper cette triste musique pendant tout le voyage,
se dit Marie-Jo.
Vous auriez pas quelque chose de plus gai ?
S'enquit-elle timidement. Si, on a, répondit Abdul placidement. Et il mit de la danse orientale égyptienne. Puis des chansons de Férouz tirées du festival de Beit Edin.
Ah, c'est plus classe,
proclama Sonia.
Chic, en voilà une qui s'est rangée de mon côté. Tant mieux.
Mais donc, Chou Hayyam, c'est plus dansant, demanda Walid. Et les trois se mirent à scander la mélodie en tapant des pieds suivant le tempo, en applaudissant des mains suivant la mesure et en se bougeant des hanches en cadence. Même Walid, qui conduisait, abandonna un instant le volant pour frapper en rythme ses mains bien en l'air. Ce qu'il put faire grâce au régulateur de vitesse.
L'ambiance a l'air festif. Ça vaut mieux pour les percer à jour. Ils seront moins vigilants. J' ai bien fait de faire mettre du Fairouz.
Au fur et à mesure qu'on entrait dans le cœur de la nuit, la musique s'adoucissait vers du blues oriental. Enfin, après de longues heures, la Fiat 500 parvint non loin de sa destination et sortit de l'autoroute. Marie-Jo jeta un coup d'œil sur sa montre. 2h30 du matin. La voiture s'arrêta en rase campagne, à côté d'un bosquet. Abdul en sortit et dit à Walid « Tu m'attends là jusqu'à ce que je revienne. Ça ne sera pas long, mais quand même pas quelques minutes seulement. » Là-dessus, il prit dans le coffre un bidon d'essence, le mit dans un sac qu'il se fixa sur le dos et partit en tenant une paire de gants et une cagoule. Il se dirigea vers le petit bois qu'il traversa, suivi des yeux par les autres passagers, puis marcha sur une clairière déserte. Après quoi, on le perdit de vue. Marie-Jo se demandait donc ce qui allait se passer.
Qu'est-ce donc qu'il est allé faire avec ce bidon et cette cagoule? Ce n'est certainement pas une halte innocente. Il va pas se mettre une cagoule juste pour aller faire pipi, ni prendre un bidon pour arroser les fleurs dans la forêt ou cueillir des champignons. Je pourrais peut-être demander à Walid ce qui se prépare, car il est évidemment au courant. Mais j'ose pas trop me mouiller. Ces canailles, qu'est-ce qu'elles peuvent bien mijoter? Tout cela est éminemment suspect, je dirais même louche, pas net, feu santé. Il y a du gauche dans l'air, comme diraient les crapules. M'a fallu attendre. J'imaginais Abdul en train de marcher dans la campagne pour déterrer un trésor. Sûr que non. Escalader à un mur ou un grillage, peut-être. Casser la vitre d'une fenêtre? Possible. Mais où y a-t-il donc des immeubles dans cette rase campagne? qu'avait beau concevoir des hypothèses, tout restait fumeux. De longues minutes passèrent, silencieuses, inquiétantes. Dans la voiture, on aurait entendu une mouche voler, car personne n'osait prononcer le moindre mot. Au bout de quelque temps, on entendit au loin comme une sorte d'explosion, de craquement suivi d'une petite sonnerie très distante. Peu après, je vis s'élever dans la nuit noire des flammes de plus en plus intenses. Elles devaient se propager à l'intérieur d'un bâtiment situé à plusieurs centaines de mètres, mais que je voyais à peine. Il avait sans doute fallu des mois pour construire cet édifice, alors qu'il avait suffi de quelques minutes pour qu'un malfaiteur le détruise, anéantissant tous ses efforts. Abdoul tardait à revenir. Walid, inquiet de ne pas le voir ou l'apercevoir, commit l'erreur de l'appeler par réflexe sur son portable. Pas de réponse, puisqu'il était fermé, mais tant mieux. Ce sera une preuve de plus de sa présence sur les lieux. Finalement, le revoilà qui court et bondit en surgissant du petit bois.
« Démarre et fonce !»
ordonna-t-il à Walid. Aussitôt dit, aussitôt fait, et nous reprîmes alors la route du retour. C'était manifestement un véhicule volé, car Walid, qui n'avait pas de permis, ne pouvait ni acheter ni louer. Un silence s'en suivit. Tout le monde se remémorait ce qui venait de se passer et en conjecturait les effets, en supputait les conséquences, en calculant les risques. Comme personne ne causait, mais que tous nous pensions à la même chose, je mis un terme à cet horrible suspense. Qu'est-ce que c'était ce feu? Devant le peu d'empressement des réponses, j'insistais. Un incendie? J'aimerais bien savoir.
Un feu de broussailles,
répondit Walid. Et ils se mirent à rire nerveusement, presque hystériquement. En pleine nuit, et quand il fait frais.
Oui.
Et les rires reprirent de plus belle.
Oui.
Et l'alarme, je crois avoir entendu une alarme de très loin, une alarme anti-incendie. Curieux pour un feu de forêt.
Oui.
De nouveau, les rires éclatèrent. Si je faisais ces remarques de bon cœur, c'était pour donner le change et en savoir plus, même si je n'en pensais pas moins, car j'étais révulsé en mon fort intérieur par le comportement de ces malfrats. Par le bidon d'essence que ces fripouilles avaient rempli lors d'une halte à une station-service, par la cagoule et les gants, et aussi par la manipulation des deux filles que nous étions à l'arrière, juste là pour servir de paravent respectable. Sonia s'adressa alors au chef. « Abdoul, expliqua Sarah, elle n'était pas là la dernière fois. »
La dernière fois?
Oui, la fois d'avant, quand on était avec Josie Benabar et qu'on s'était rendu à Perpignan. Abdoul n'était pas d'un naturel causant. Il dit simplement...
Arnaque à l'assurance.
Ça fait beaucoup d'arnaques en quelques jours, gloussa Sonia. Vous avez eu beaucoup de demandes de propriétaires d'entreprises qui voulaient faire incendier leurs locaux au même moment? La question fut jugée suffisamment impertinente pour rester sans réponse. Et je me dis alors que je devrais y réfléchir à deux fois. C'est bizarre, commentai-je. Ainsi, ils n'en étaient pas à leur premier coup. Puisqu'Abdoul avait déjà œuvré à Perpignan, et peut-être y en avait-il eu d'autres encore, ailleurs, dont on ne me disait rien. J'en vins à réaliser l'incroyable enchaînement des hasards, que j'ai décidé de venir à l'hôtel de la Tortue, que j'y connus cette Patricia Benatar, de son faux nom Josie Benabar, qui était un indic de la police très motivé à la poursuite de gangsters sous couvert de prostitution. Qu'elle m'ait persuadée d'aller espionner à mon tour cette bande de crapules. C'était vraiment une succession étonnante de circonstances qui ne se rencontrent que très rarement. Et en plus, les maladresses s'étaient multipliées. La voiture volée avait dû être repérée depuis un bout de temps. Et ils n'avaient même pas pris les précautions élémentaires d'effacer les traces de leur passage. Pire, qu'ils m'aient laissé voir en direct leur forfait sans avoir même tenté de les dissimuler en planquant la Fiat 500 dans un endroit d'où je n'aurais pu rien voir au lieu d'apercevoir les flammes catapultées dans la nuit noire. C'était vraiment des charlots. Ou plutôt non, des voyous qui pensent qu'ils s'échapperont à tout. Ah, l'impunité. Ils y croient, mais ils ont tort ces bandits, car on va certainement les serrer. Quant à leur fable des arnaques à l'assurance, je n'y crois pas une seconde. Je me suis renseigné par la suite. C'était une entreprise d'irrigation qui faisait des bénéfices et non pas des pertes. Qui marchait bien, qui avait besoin de ses locaux comme de son chiffre d'affaires pour exécuter ses contrats. Pourquoi aurait-elle voulu partir en fumée juste pour toucher une indemnité? Et s'il y en avait d'autres? Pourquoi ces autres entreprises auraient-elles voulu organiser cette fraude juste au même moment? Tout ça paraissait cousu de fil blanc. Faute d'éclaircissement, je me lançais, prêchant le faux pour savoir le vrai. As-tu pensé à casser la télésurveillance avant d'agir?
Inutile, j'avais une cagoule.
Qui me répondit Abdoul du tac au tac. Donc, c'est bien toi qui as mis le feu.
T'es bien curieuse, ma petite, mais tu l'as vu comme moi, le feu d'artifice.
Je l'ai vu comme toi.
Alors, c'est simple. Si c'est pas moi, qui? Ça n'a pas explosé tout seul, non? D'ailleurs, j'ai tout filmé.
Ok, mais tu l'as pas fait pour l'amour de l'art, pour voir si c'était joli dans la nuit noire.
Non.
Tu l'as fait pour quelqu'un. Abdoul, c'est un taiseux, je l'ai dit. Quand il n'a pas envie de répondre, il ne répond pas. Il ne m'aime pas dans le genre évasif ou fuyard, ou prompt à éluder, par un discours alambiqué ou embarrassé. Il se tait, point final. Faudra sans doute que je l'entreprenne à l'horizontale pour en savoir plus. J'aurais-il que la porte était close? Si je la pousse un peu et qu'elle se laisse faire en grinçant, sûr que je vais trouver des choses pas très propres. Car il faut bien que quelqu'un l'ait payé pour ce travail. S'il a tout filmé, ce charlot, y compris son effraction et bris de glace, c'est peut-être pour le montrer à son commanditaire. Mais à la réflexion, je ne le pense même pas. C'est simplement qu'il se croit invincible, se bat de plafond, et qui veut immortaliser ses exploits. Il ne réalise pas qu'il a constitué une preuve contre lui-même qui sonne comme un aveu. Les prutes épaisses qui roulent des mécaniques, c'est par leur orgueil qu'on les attrape, par leur fascination morbide pour le crime, leur attachement monstrueux au mal qu'elles semblent adorer comme on adore une idole. T'as un air de dire à la terre entière:
contemplez ce qui vous attend, les constipés, les dégonflés, les pétochards.
Et puis, une fois qu'on les tient et qu'on a un peu secoué le cocotier pour qu'ils en prennent un bon coup sur la calebasse, ils se calment et changent de tonalité. Si tu es un mouton, je suis un lion. Si tu es un lion, je suis un mouton. Il n'y a que ça qu'ils comprennent. Donc, m'étais-je dit, ce matamor qui a filmé avec l'aide de Walid commet fréquemment des erreurs d'aiguillage. Profitons-en pour lui tirer les vers du nez. Aussi, me suis-je intéressé à Abdoul de plus près à la fin du voyage. Still, le repos du guerrier, si vous voyez ce que je veux dire. Sa récompense en somme. Fallait bien que je serve à quelque chose. Je le reconnais, même si je les exècre ces voyous, j'apprécie néanmoins leur force physique, leur virilité. J'aurais pu lui dire « sois fort et tais-toi », mais ça aurait caché l'ambiance. De toute façon, Abdoul ne cause pas et ce fut l'inconvénient. Pas moyen de lui faire dire qui l'avait commandité pour cet incendie. J'en fus fort dépité, même si je n'avais pas ménagé mes efforts pour lui donner satisfaction.
Tel fut le rapport complet que Marie-Jo rendit à Patricia.
Ça collait avec les informations que nous avons par ailleurs.
C'est quoi ces infos?
Abdoul Wafat et Walid Serpialine n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Ils ont déjà incendié trois usines. L'une est dans l'Isère qui fabrique des logiciels pour machines, l'autre à Perpignan qui produit de la peinture. J'y étais et j'ai assisté à tout. Et une troisième est à Château-Renard, à côté d'Arles. Mais celle-là, on n'en est pas sûr. On sait maintenant comment ils procèdent. Il n'y a pourtant aucun rapport entre ces sociétés. Si, il y en a une. On s'en est aperçu quand on a découvert que quelqu'un s'était intéressé à ces quatre lieux.
Qui ça?
Un homme qui vit actuellement en Iran. Juste avant les incendies, il a fait des recherches sur ces quatre entreprises. Or, auparavant, personne ne s'était jamais renseigné sur les quatre simultanément, car elles n'ont aucun point commun. Presque aucun.
Presque?
Sauf une.
Tu me mets l'eau à la bouche, Patricia. C'est quoi ce point commun?
La nationalité des détenteurs du capital. À travers des sociétés écrans, ils sont ou ont été israéliens.
Récapitulons. L'homme qui vit actuellement en Iran se renseigne quelques jours avant les sinistres sur quatre entreprises qui n'ont aucun rapport entre elles, sauf d'avoir ou d'avoir eu, via des sociétés écrans, des actionnaires, propriétaires ou détenteurs indirects israéliens. Que faut-il en déduire?
Que les coïncidences sont trop fortes pour être le fruit du hasard.
Que ce sont les Iraniens qui ont fait les coups, d'abord pour nuire à des intérêts israéliens, et ensuite pour tester les réactions quand on s'en prend à des petits, avant de s'en prendre à des plus grosses. Mais pourquoi avoir recours à de petites frappes comme ceux-là?
C'est facile. Tous leurs livres à moto et anonymement une enveloppe de 30 000 euros avec les noms et les adresses et tout les laisse se débrouiller. Si ça marche, tu considères les réactions et tu attends avant de t'attaquer à plus grosse.
Si ça marche pas?
Ah, si ça foire, tu auras perdu 30 000 euros. Mais tout de même, tu prends pas de clampines pour faire le boulot. Tu passes via l'application Signal, par un intermédiaire qui connaît un pro ayant des bons résultats dans les milieux du crime organisé.
Bon, c'était pas plus simple de prendre des Iraniens pur sucre?
Non, les Iraniens sont dans les collimateurs des services antiterroristes. C'était mieux de recruter dans le milieu parmi les délinquants des droits communs, car ils passaient mieux sous les radars. Et puis, pour des petites opérations comme celle-là, pas besoin d'utiliser la grosse armada.
Pourquoi alors tout s'est arrêté subitement et n'a pas continué? Et pourquoi on ne les arrête pas tout de suite?
Ce n'est pas fini, car ils préparent autre chose, ton Abdoul. n'exagérons rien, il n'est pas plus mon Abdoul que le tien.
Il a beau être taiseux, il n'a pas perdu son temps avec nous, hein, ma poulette?
Marie-Jo se mit à rire. Et la Benatar surenchérit.
Dis, t'as trouvé que c'était une bonne coup?
Oh, tu le sais, j'aime me faire prendre par des brutes. Et ce gros porte-œufs m'excitait, même si je le déteste.
T'as dès la chance, parce que moi, comme je te l'ai déjà dit, moi j'ai pas aimé. Trop rapide, aussi vite fini que commencé. N'essaie pas de se retenir.
Bon, je sais que les filles comme nous, elles sont dressées pour ne pas s'attarder dans le perfectionnisme, ni dans les ficelages fornicatoires. Autre mièvrerie, mais tout de même, faut un minimum de civilité. En tout cas, c'est pas demain la veille que je vais recommencer avec ces gousses. Tu vois, il est plus fait pour toi que pour moi. Si on a encore besoin d'un appât, ce sera toi qu'il faudra envoyer. Mais on n'aura peut-être pas besoin vu le prochain coup qui se prépare.
C'est quoi le prochain coup?
Un trafic des Kalachnikovs, des stoupes et des GPS auxquels notre crapoule se livre.
Ah, il a vraiment tout pour plaire.
Les flics attendent d'être sourds que ses matériels soient dans sa voiture.
Toujours la même? Toujours la même? Il n'a pas encore réalisé qu'elle était géocalisée parce qu'elle a été volée?
Pas encore.
Ou alors, il s'en fout et ne prend aucune précaution. C'est que c'est pas un type susceptible d'avoir des remords, des regrets ou les moindres commencements de dégoût des sentiments et des culpabilités.
Effectivement, quelques semaines plus tard, la police intercepta le véhicule et trouva dans son coffre les armes et produits illégaux que Patricia espérait. La bande fut mise hors d'état de nuire, c'est-à-dire sous les verrous. Abdoul et Walid avouèrent tout. Ils s'en vantèrent même. Et, quand à la fin de l'interrogatoire, l'enquêteur leur demanda pourquoi ils en étaient si fiers, ils laissèrent entendre que c'était une façon de se faire remarquer par leur commanditaire pour qu'on leur confie plus tard de plus lucratives missions. Mais, comme ces crapules allaient rester à l'ombre pendant quelques années, le policier demeura sceptique sur leur explication et leur dit
« Non, c'est juste parce que vous aimez faire le mal. »
Joe félicita Miss Liégeois et lui présenta l'équipe de policiers qui avait été chargée de l'enquête et de suivre l'affaire à distance. Et les policiers lui proposèrent de travailler pour eux, et oui, mais sur d'autres dossiers. Alors la question se pose dans toute son ampleur. La trajectoire allait-elle s'infléchir? Marie-Jo allait-elle accepter de devenir, comme Patricia Benatar, une indicatrice professionnelle? Ou allait-elle au contraire mettre fin à cette aventure en la jugeant trop aléatoire ou trop dangereuse pour reprendre sa vie conjugale plus paisible? Ah, ce doute, ce doute.
Vous venez d'entendre la quatrième partie du récit Marie-Josette Liégeois de Patrick Simon. Rendez-vous vendredi prochain pour de nouvelles histoires à la loupe. Histoire à la loupe.
Vous venez d'entendre « Il était une fois » de Patrick Simon, diffusé sur Radio Courtoisie vendredi 5 juin 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Sandrine et Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.